C'est le niveau le plus bas depuis la Première Guerre mondiale.
La première ? Ça devient un enjeu véritablement prioritaire pour le gouvernement. Les clés ?
La baisse, elle est mondiale.
J'ai besoin de repères.
Ça a des implications économiques majeures. Hein.
Marie Van Kutsem.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Clés. C'est un constat qui a secoué la France il y a quelques semaines. Il y a désormais moins de naissances que de décès dans le pays. Et c'est la première fois depuis 1945. En Belgique, ce constat est d'actualité depuis 2022. La dénatalité est un phénomène que l'on observe un peu partout dans le monde, y compris chez les géants de la démographie comme l'Inde ou la Chine. Mais pourquoi fait-on moins d'enfants aujourd'hui ? Est-ce la faute à l'état du monde, aux politiques publiques pas assez soutenues avec les jeunes parents? Est-ce la montée de l'individualisme, la baisse de la fertilité? Les facteurs sont nombreux et leurs interactions complexes. C'est ce qu'on va essayer de démêler dans cet épisode des clés.
La première, les clés.
Les naissances sont au plus bas depuis la Première Guerre mondiale. Ça change tout, c'est un défi majeur pour nos politiques publiques qui réclament de l'anticipation.
En 15 ans, les naissances ont chuté d'un quart en France. C'est absolument massif. On faisait 2 enfants par femme encore en 2010. En 2025, le taux de fécondité est tombé à 1,5, 1,56 précisément. C'est le niveau le plus bas depuis la Première Guerre mondiale.
La baisse, elle est mondiale. C'est-à-dire que dans énormément de pays dans le monde, ça baisse aussi. Donc la France n'est pas un cas isolé.
Est-ce la fin de l'exception française ? La France qui faisait historiquement plus d'enfants que ses voisins européens, mais qui désormais suit la tendance mondiale. Le bilan démographique pour l'année 2025, publié par l'INSEE, l'Institut National Français de la Statistique, est sans appel. La chute des naissances se confirme. Elle n'a même jamais été aussi basse depuis la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
Il y a de moins en moins de naissances en France et ça devient un enjeu véritablement prioritaire pour le gouvernement.
Les sacrifices qu'on fait quand on a des enfants, ce sont les femmes qui le payent en premier sur le salaire, sur la carrière. Ça a des implications économiques majeures. Hein. C'est moins de productivité, c'est moins d'idées nouvelles, c'est moins
plus
de croissance.
À l'immigration de travail.
Plus d'appels à l'immigration aussi. L'Italie est déjà en train de perdre de la population active. Hein. Donc elle a besoin de travailleurs étrangers juste pour avoir suffisamment de bras et de cerveau pour faire tourner l'économie.
Nous sommes mi-janvier, toute la presse s'empare du sujet. Il faut dire qu'il y a comme un frémissement existentiel derrière ce phénomène de dénatalité. Pourtant, il faudra sans doute faire avec, car si la décision de faire un enfant est liée à des éléments extérieurs, elle est aussi très personnelle. Or, les mentalités évoluent, les parcours aussi. Nous avons rencontré 2 personnes qui ont choisi de ne pas avoir d'enfant. Emmanuelle a 48 ans, elle est en couple et sa décision remonte à très loin.
J'ai une petite sœur quand j'avais 14 ans. J'ai une autre sœur aussi qui en a 3 ans de moins que moi, mais bon, j'étais l'aînée. Et donc, ça m'a donné un premier aperçu de ce que ce serait la maternité. Et je me suis rendu compte assez vite que j'aimais les enfants, mais que selon moi, quand on fait des enfants, il faut leur apporter de l'amour, de la sécurité et du temps. Et j'étais d'accord pour les 2 premiers, mais pas le dernier. Le temps. Je vais le vivre comme un sacrifice. Et moi, souvent, je répondais, pourquoi tu veux pas d'enfant ? Je dis, mais pourquoi tu en veux ?
Et les gens vous répondaient quoi ?
Ben, c'est assez intéressant parce que il y en a qui, en fait, ne se sont jamais posé la question de pourquoi ils en ont fait. C'est juste qu'il faut. C'est comme ça. Et donc, c'est aussi une chance que j'ai d'être née dans cette époque-là. C'est-à-dire que j'ai le choix.
Olivier, lui, a 35 ans. Il est en couple également.
C'est quelque chose que je ressens depuis toujours. J'ai jamais eu vraiment d'attrait pour le fait d'être parent ou pour les enfants. Ça s'est confirmé avec le temps. Déjà, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir rencontré ma compagne avec laquelle on est aligné sur cette question-là. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'égoïsme là-dedans, je ne sais pas, mais j'ai un rythme de vie assez chargé. Il m'arrive souvent de me dire que dans 24 heures, j'ai pas assez de temps pour moi, pour mes loisirs, pour mon couple, mes voyages, etc.
Et puis, un argument qu'Olivier met en avant, c'est son inquiétude par rapport au futur.
Je suis un petit peu résigné et un petit peu fataliste quant à l'état du monde et de l'écologie actuellement. Je suis plutôt d'avis de faire ma vie, de faire mon temps et de pas vouloir amener un enfant dans le monde tel qu'il est et surtout dans la manière dont il semble évoluer.
Olivier me citait aussi l'évolution d'Internet, la violence en ligne, les réseaux sociaux. Emmanuelle, elle, ne va pas sur ce terrain-là.
Pour ma part, je trouve que c'est très culpabilisant, par exemple pour mes sœurs. qui ont choisi, elles, de mettre des enfants au monde. Donc, j'ai pas d'avis sur ce sujet-là. Et je me permettrai même pas d'en avoir un, parce que, en tout cas, c'est pas une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait d'enfants. Et je trouve que, quelque part, dire à des gens qu'on fait des enfants, moi, je veux pas. T'as vu un peu l'état du monde? Je vois pas comment bien le prendre en face, hein.
Difficile de parler de ce sujet sans aborder la dimension genrée. Le fait d'être un homme ou une femme face à ce type de décision change aussi la manière dont est perçu son positionnement. Autant pour Olivier, cette décision n'a fait l'objet d'aucun commentaire, autant pour Emmanuel, les injonctions ont été bien présentes. Elle nous donne un exemple.
Moi, je suis à un mariage, il y a quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie qui va me dire « Et vous, vous êtes mariée ?» Non. « Et vous avez des enfants ?» Non. Mais il serait temps d'y penser, hein. Et en fait, je me dis toujours « En vertu de quoi tu te permets ?» Donc j'avoue que parfois, j'ai fait preuve de cynisme, c'est-à-dire « Ah, vous n'avez pas d'enfants ? Ah, mais il faudrait y penser. » Je dis « Mais oui, mais je suis stérile. » Et j'aime beaucoup mettre mal à l'aise mon interlocuteur parce qu'en fait, ce que je trouve ça très grossier. En fait, c'est une décision qui n'appartient qu'à moi ou à mon compagnon, mais sûrement pas à des gens que je ne connaissais pas 2 heures avant d'un mariage.
Ce qu'ils mettent en tout cas tous les deux en avant, c'est que l'époque permet de repenser les modèles familiaux.
Je pense qu'à l'heure actuelle, les schémas de famille traditionnels sont pas mal en train d'évoluer. Les gens arrivent à dire aussi à voix haute qu'ils ne sont pas intéressés par ça et qu'ils aspirent à un autre style de vie ou autre type de schéma familial.
On peut créer des familles de plein d'autres manières. Je pense qu'on peut, aussi s'inscrire dans le parcours d'un enfant. Moi, j'ai un filleul, par exemple, et j'essaye de m'investir auprès de lui, pas comme une maman, mais peut-être comme une autre figure adulte de confiance. Et je pense qu'on peut transmettre à des enfants qui ne sont pas de votre sang. Finalement, c'est aussi ça, faire famille quelque part.
Bonjour Alice Reyes.
Bonjour Marie.
Vous êtes doctorante en démographie à l'UC Louvain. Vous travaillez sur les causes de la dénatalité en Belgique et vous avez réalisé toute une étude comparative avec la Finlande, qui a des politiques publiques assez volontaristes pour soutenir les jeunes parents. On va y revenir. Une première réaction peut-être au témoignage que l'on vient d'entendre. Est-ce que ça résonne avec vos résultats de recherche?
Alors oui, tout à fait. Donc, je pense que dans les deux interviews, une chose qui revient beaucoup sont les normes attachées à la parentalité. Donc il y a cette injonction non seulement d'être père ou mère, c'est le rôle des personnes qui vont être sur Terre pour pouvoir justement générer d'autres générations et qu'il y ait le renouvellement de la population comme on parle en démographie. Mais il y a aussi tout ce qui est le fait d'être un père ou une mère parfaite. Donc il y a beaucoup d'exigences, donc on entend le temps qu'il faut, les sacrifices qu'il faut faire pour ses enfants, pour être une bonne mère. Et donc tout ça rejoint le fait que des personnes vont ne pas avoir envie de faire des enfants. Et il y a aussi, donc surtout dans le deuxième témoignage où c'était plutôt lié à l'écologie, donc il y a aussi tout un discours par rapport à ça. Et il y a aussi, on est dans un monde en crise, et est-ce qu'on va vraiment mettre un enfant au monde qui va vivre tout ça? C'est pour ça que le fait de ne pas faire d'enfant est devenu multifacette, parce qu'il y a vraiment énormément de causes différentes. C'est un choix individuel, mais qui est influencé par des normes, qui est influencé par les médias, par les discours de nos propres familles. Et de plus en plus, la non-parentalité, comme on s'adresse à ça en démographie, la non-parentalité fait face aussi à le fait qu'il y a d'autres façons, comme le dit la femme dans le premier témoignage, de faire famille. Mmh. Donc, par exemple, le fait d'avoir des neveux et des nièces, d'être parrain-marraine. Donc ça,
c'est peut-être une autre façon, ouais, c'est ça, d'approcher les enfants sans être pour autant investi comme un parent.
Exactement.
On va peut-être commencer par se demander avec vous ce qu'on entend par personne sans enfant. Parce qu'évidemment, il y a celles et ceux pour qui c'est volontaire, hein, comme nos deux témoins. Mais il y a celles et ceux aussi pour qui c'est involontaire. Et ça, c'est important de ne pas les oublier.
Tout à fait. Donc, je pense que c'est la première chose dont on doit faire attention, en tout cas quand on parle de non-parentalité, c'est le fait que ce soit volontaire ou involontaire, donc pas vouloir avoir d'enfant. C'est donc un choix délibéré et qu'on va appeler ça dans la littérature le « child free ». Ça a émergé des débats de la littérature plutôt féministe, dans le sens où le « childless » utilisé en anglais fait référence plutôt à un manque de quelque chose, donc le manque d'un enfant. Donc maintenant, on parle plutôt de « child free » dans la littérature.
Donc ça, ce sont ceux et celles qui le décident de ne pas avoir d'enfant. C'est volontaire.
À un certain moment de leur vie, mais ça ne veut pas dire que ces intentions de ne pas avoir d'enfant vont rester les mêmes. Peut-être qu'à un moment donné, elles vont rencontrer, par exemple, un partenaire qui a envie d'avoir un enfant, etc. Donc si on se dit « child free », peut-être qu'on va changer d'avis, donc ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. Et donc à côté de ça, on a aussi la non-parentalité qui est dite involontaire. Ça peut être lié, par exemple, à les conséquences d'un problème de santé, avec ou sans infertilité. Donc, notamment, il y a la ménopause précoce, l'endométriose, la maladie des ovaires polycystiques, etc. Et à côté de ça, et ça, en fait, c'est la majorité des cas de personnes qui ne deviennent pas parents, c'est que les personnes souhaitent avoir des enfants, mais prennent à plusieurs reprises dans leur vie des décisions, ou bien vont faire face à des contraintes qui vont conduire à un report continu de la parentalité. Et donc, si on continue à reporter, on arrivera à un moment, surtout pour les femmes, où il ne sera plus possible, biologiquement parlant, de faire des enfants.
Et quand vous dites conditions pour reporter, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est le fait de, je sais pas, d'avoir un métier stable, un logement qui peut accueillir une troisième personne, c'est des choses comme ça?
Tout à fait. Donc je pense que la première chose qui est importante quand on a envie d'avoir des enfants, c'est de trouver un partenaire adéquat avec lequel on aura une relation stable et de longue durée. Il y a aussi la poursuite des études supérieures, qui est de plus en plus fréquent. Le fait que c'est plus difficile de trouver un contrat à durée indéterminée, par exemple, l'instabilité sur le marché du travail, et aussi le logement. Beaucoup d'individus, beaucoup de personnes vont vouloir d'abord s'installer et devenir propriétaire, par exemple, avant de faire des enfants.
Et tout ça vient décaler, du coup, la décision de devenir parent. La question de la fertilité, j'y reviens, parce que vous avez évoqué l'endométriose ou les ovaires polykystiques. Après, on sait que chez les hommes aussi, il y a une baisse de la qualité du sperme ces dernières années. Donc cette question de la fertilité, elle a souvent été un point de débat quand on a parlé de la dénatalité en France il y a quelques semaines, parce qu'au fond, on présente souvent la dénatalité comme un phénomène de décision individuelle, mais il y a peut-être plus de couples qu'avant qui doivent renoncer en fait à la parentalité parce que la fertilité générale est en baisse. Est-ce que pour vous, ça c'est un angle mort du sujet de la dénatalité ?
Je pense que ça va quand même impacter la dénatalité dans le sens où, justement, si on continue à reporter, on sera plus longtemps exposé à d'autres facteurs de style de vie comme le tabagisme, l'alcool. Et donc, au plus on va reporter, au moins on deviendra en tout cas fertile. Donc il y a des études en Finlande qui ont montré que, en tout cas pour la fertilité d'une femme, après 35 ans, ça commence déjà à diminuer. Et donc, en fait, la fenêtre où la femme est fertile va diminuer au plus on reporte. Aussi, le fait d'avoir un premier enfant à un âge plus âgé va impacter le nombre d'enfants total qu'une femme va avoir, parce que la fenêtre pour en avoir un deuxième ou un troisième, etc., va aussi se réduire. Donc je pense que le problème de stérilité que vont rencontrer certains couples, alors je ne sais pas si on en entend plus parler maintenant parce que c'est devenu moins tabou, mais je pense que oui, ça participe au phénomène de la non-parentalité en tout cas.
Vous avez étudié, Alice Reiss, les parcours de vie des personnes sans enfants, parcours socio-économique, on va dire. Et un premier constat, peut-être, c'est le fait que ces parcours, ils sont beaucoup plus variés, beaucoup plus hétérogènes qu'avant.
Tout à fait. Donc, de plus en plus, dans les dernières décennies, on voit une diversification des parcours de vie. Donc, par exemple, avant, c'était un cliché, mais le phénomène Tanguy, on en parlait avec ce film, où un homme de 30 ans vivait toujours chez ses parents. Une chose qui revient de plus en plus maintenant, c'est que les jeunes adultes vont rester plus longtemps chez leurs parents que dans le passé, vont mettre plus de temps à trouver un travail, à finir leurs études, etc. Et donc, toutes ces facettes-là vont faire qu'il y aura des différences de timing des événements majeurs dans la vie des individus, ce qui va du coup provoquer une diversification des trajectoires de vie. On parle aussi de déstandardisation en démographie. Donc avant, il y avait les transitions typiques comme « je quitte chez mes parents parce que je vais me marier », j'achète une maison, j'ai un emploi et je fais des enfants. Maintenant, c'est devenu déstandardisé dans le sens où l'ordre des événements n'est plus le même. Et donc ça va aussi participer au fait que le phénomène de la non-parentalité est multifacette.
Vous parliez d'enfants Tanguy.
Oui.
Un autre terme que vous avez utilisé, c'est enfants boomerang. Alors ça, ce sont plutôt des enfants qui reviennent chez les parents après un événement de vie de type, je sais pas moi, une perte d'emploi ou peut-être la difficulté à trouver un nouveau logement parce que c'est trop cher, des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vivre seul, se lancer seul dans la vie, c'est aussi plus compliqué qu'avant ?
Alors moi,
socio-économiquement parlant, je veux dire, puisque ce sont les aspects sur lesquels vous penchez.
Oui, tout à fait. Donc, il y a une augmentation, en effet, du nombre de personnes qui, après avoir quitté le nid familial une première fois, vont revenir vivre chez leurs parents pour une courte durée ou même s'établir, ça dépend de leur situation. Et ça peut être vraiment lié à différents facteurs. Ce qu'on observe la plupart du temps, c'est suite à une séparation. Donc ce que je vois dans les données, c'est que dans les pays nordiques, en tout cas en Finlande, le départ du nid parental est plus évident pour les personnes en Finlande qu'en Belgique. Qu'en Belgique, ils vont avoir tendance à vivre plus longtemps chez leurs parents parce qu'ils ont beaucoup moins d'aide de l'État. Et alors en Finlande, ils vont moins souvent retourner chez leurs parents, aussi parce qu'il y a des systèmes qui permettent plus facilement de se réinstaller quelque part, avec des aides sociales, etc.
Mmh. Vous avez aussi étudié les revenus de ces personnes sans enfants. Et bon, mais ça, c'est vrai qu'on se dit que ça peut être un facteur assez intéressant, hein. Est-ce qu'on fait moins d'enfants parce qu'on n'a pas assez de revenus, ou bien au contraire, est-ce que ce sont des profils très favorisés, peut-être très investis dans leur travail, qui font moins d'enfants? Quels sont vos constats là-dessus?
Alors ça, c'était un aspect très intéressant, donc je me posais exactement la même question avec les mêmes hypothèses. Je pensais avoir vraiment un continuum, ou en tout cas des profils assez marqués au niveau des revenus. Mais ce que j'ai trouvé, et qui est très très similaire en Finlande et en Belgique, c'est que les profils économiques liés aux revenus individuels des personnes sans enfants est extrêmement hétérogène. Ce que j'ai regardé ensuite, c'est les trajectoires de revenus. Donc j'ai suivi des personnes de leurs 18 ans jusqu'à leurs 45-50 ans. Et j'ai regardé s'il y avait des ruptures. Et parmi les personnes sans enfants, pas spécialement, plus que les personnes qui deviennent parents.
Ce qu'Alice Reiss nous explique ici, c'est que le revenu et l'évolution du revenu au cours de la vie n'ont pas d'incidence sur le fait d'avoir ou non des enfants. Ce n'est pas un facteur relevant. Elle a ensuite croisé ses parcours de revenus avec les parcours de logement, vivre chez ses parents, vivre seul ou en couple, ainsi qu'avec le parcours d'union, c'est-à-dire le fait d'être en cohabitation légale, marié ou divorcé. Et finalement, en comparant tous ces éléments, le plus déterminant pour le fait d'avoir ou non un enfant, c'est bien celui de l'union.
Il y a de nombreux pays européens qui sont questionnés sur le sujet, et les unions sont vraiment le déterminant le plus fort d'une première naissance, en tout cas pour les individus en Europe, dans les pays développés.
On va revenir à présent sur nos deux témoignages de début d'émission. Olivier nous disait « si je ne veux pas d'enfant, c'est parce que j'ai une vie bien remplie » et Emmanuel ajoutait « je sais que pour se consacrer à un enfant, il faut faire beaucoup de sacrifices ». Les générations, les nouvelles générations seraient moins prêtes à cela, à l'investissement que demande un enfant. C'est un terme qu'on entend souvent, hein, surtout dans la bouche des politiques d'ailleurs, qu'il y a une forme d'individualisme des nouvelles générations. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on observe effectivement?
Alors, il y a une montée, en effet, de l'individualisme. Les normes sont aussi mouvantes, donc quand on pense notamment à la place de la femme. Le fait que les femmes deviennent de plus en plus instruites fait qu'elles vont avoir beaucoup plus de choix potentiels par rapport à leur avenir. Elles vont être plus conscientes des choix qui s'offrent à elles, notamment au niveau des carrières, etc. Et puis, comme on l'a entendu dans le premier témoignage, on entend encore parfois quand on est à un repas de famille « Et toi, c'est pour quand? Tu fais quand ton premier enfant ?»
Oui, des injonctions qui sont toujours plus présentes d'ailleurs à l'égard des femmes que des hommes. Ça ne change pas.
Exactement. Et ça devient de moins en moins tabou de dire, en fait, ben non, je ne veux pas d'enfant.
Alors, ça nous amène à une question assez incontournable, celle des politiques de soutien à la parentalité. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce que c'est ça qui peut aider les jeunes adultes à se lancer dans le fait d'avoir des enfants? On l'a dit, hein, vous avez comparé la Belgique et la Finlande. À ce niveau-là, qu'est-ce que ça donne?
Alors, ce qu'on voit, en tout cas, dans les pays nordiques, en Finlande et en Norvège également, c'est que les politiques familiales vont avoir un impact, surtout une fois le premier enfant arrivé. Parce que les parents vont avoir l'expérience des congés parentaux, des allocations dont ils bénéficient, et ils vont avoir cette première expérience pour décider est-ce qu'on en fait un deuxième ou pas. Mais le passage de ne pas avoir d'enfant à en avoir un premier est moins impacté par les politiques familiales. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit, quand on parle avec des gens de nos envies d'avoir d'enfants, c'est pas quelque chose auquel on va penser tout de suite. Ah, est-ce que j'aurai un bon congé de maternité? Ah, ça sera plutôt est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Mais une fois que la mère et le père auront vécu leur parentalité et bénéficier des politiques familiales, là, ils pourront se dire, est-ce que ça vaut le coup d'en faire encore un autre? Est-ce que c'était difficile? Est-ce qu'on se sent soutenu par les politiques, etc.?
Mmh. En Belgique, la Ligue des familles, elle dénonce régulièrement le manque de places en crèche, de places d'accueil, la demande des congés parentaux plus conséquents. Elle demande aussi un congé paternel plus long. Est-ce qu'il faut comprendre, au regard de ce que vous nous dites là, que ce sont des mesures qui ne vont pas spécialement soutenir les projets d'enfants, en tout cas pour des couples qui ne se sont pas encore lancés dans la parentalité?
Je pense que faciliter quand même les choses pour les personnes qui veulent devenir parents, ça aura un impact sur ceux qui hésitent à devenir parents, qui veulent devenir parents, et peut-être que le passage sera plus facile. Mais ça résonne beaucoup ce que vous dites par rapport au congé de paternité, parce que c'est quand même un gros problème en Belgique et également en France. Quand on regarde dans les pays nordiques, en fait, il y a 160 jours qui vont être donnés à chaque parent, dont 65 jours qu'on peut transférer. Donc ça veut dire qu'il y a un quota qui est réservé au père. Et il peut, s'il veut, donner le restant à la mère, ou même, maintenant, ça se fait aussi à un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, etc.
Ah oui.
Et donc le fait d'avoir des congés parentaux beaucoup plus généreux, surtout pour les pères, ça va influencer aussi la position de la mère par rapport à ça.
Ce qui permet peut-être aussi de redéfinir un peu les rôles au sein du couple et
tout à fait.
De lisser les différences hommes-femmes dans la parentalité.
Tout à fait. Et les femmes ont plus de facilité à retourner sur le marché du travail qu'en Belgique, par exemple. Mmh.
Un autre sujet soulevé par de nombreuses personnes qui ne veulent pas d'enfants, c'est l'état du monde, la peur du futur, changement climatique, montée de l'extrême droite, etc. Est-ce que chaque période de grand bouleversement va impliquer ça aussi? Quand on a moins confiance dans le futur, on fait moins d'enfants.
Donc, il y a des recherches qui ont été menées à l'UC Louvain qui sont très intéressantes sur les inquiétudes environnementales par rapport au climat, l'avenir de la planète, etc., qui font baisser l'envie d'avoir des enfants. Et donc, ils ont observé deux types d'inquiétudes. On a la vision écologique, donc c'est la crise écologique va menacer l'avenir de l'humanité. Et on a l'éco-anxiété, dont on parle plus en plus. Donc ça, c'est la facette plutôt émotionnelle, le stress et l'anxiété qui vont perturber le quotidien quand on pense au climat et qui est en montée, surtout parmi les jeunes générations. Et donc, en faisant passer un questionnaire, les chercheuses en psychologie ont découvert que les personnes qui ont une vision écologique forte et ou de l'éco-anxiété vont avoir tendance à dire qu'ils veulent moins d'enfants. Mais ils ont quand même vu que l'effet était faible à modéré parce que quand ils ont ajouté les facteurs dits plus classiques, donc les motivations positives liées au fait de devenir parent, les coûts et les contraintes, le fait d'avoir une relation stable, etc., les facteurs liés à l'environnement ne vont plus prédire l'envie d'avoir des enfants. Donc l'environnement va compter dans les décisions, dans les envies d'avoir un enfant ou pas, mais d'autres choses vont peser plus dans la balance par rapport à la décision d'avoir un enfant ou pas.
Encore un élément abordé par nos témoins, c'est qu'aujourd'hui on peut faire famille autrement. Alors ça c'est vrai, les modèles sont bien moins figés qu'avant, plus de familles recomposées par exemple, et on se dit faire un enfant c'est plus l'unique manière d'être un adulte de confiance pour un enfant, quelque part. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez pu observer.
Oui, tout à fait. Donc, ça fait référence au témoignage d'Emmanuel, qui disait qu'elle avait du coup un rôle de marraine. Et donc, on peut penser que ça donne le bon côté d'avoir un enfant, parce qu'il y a moins de contraintes, justement, elle en parlait également, liées à avoir un enfant. On a les côtés positifs de partager du temps avec l'enfant, etc. Et en fait, c'est un phénomène qui reçoit un peu plus de lumière dans la littérature, surtout dû à la diversification des trajectoires de vie, des recompositions familiales qui sont en effet de plus en plus fréquentes. Et donc, il y a un terme qui reçoit de l'attention pour le moment, c'est le « social parenting ». Donc, si on traduit en français, ça donne les parents sociaux. Ça fait référence aussi au beau-père, belle-mère. Et en fait, il y a donc un chercheur en Norvège, Axel Christensen, qui a regardé si le fait pour un homme d'entrer dans une union avec une femme qui a déjà un enfant va influencer sa probabilité de rester sans enfant. Et donc, il a trouvé que être en couple réduit donc généralement les chances de rester sans enfant, mais la nature de la relation va beaucoup compter. Le moment de la vie où l'homme devient père social va changer la probabilité qu'il reste sans enfant biologique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas juste le fait d'avoir un enfant via une autre union, donc d'être social father, qui va impacter la non-parentalité, mais c'est la combinaison entre le fait d'être social father et la trajectoire conjugale dans laquelle il s'inscrit. Donc la probabilité de ne pas avoir d'enfants pour les social fathers, les pères sociaux, c'est les pères sociaux qui vont l'être à un âge plus jeune, où il y aura plus d'unions courtes, multiples et instables, donc beaucoup de ruptures, donc moins d'occasions pour avoir un enfant biologique. Et parfois, les unions vont se faire en fait avec des partenaires qui ne veulent plus d'enfants après en avoir déjà eu. Donc ça, c'est un phénomène un peu complexe, il y a beaucoup de facettes également. Et en démographie, rien n'est facile, mais le social parenting prend de l'ampleur, en tout cas dans les discours sur la non-parentalité. Est-ce que ça ne devient pas une forme de parentalité en elle-même également?
Mmh. Je voudrais quand même aussi aborder avec vous la moralité qui n'est jamais très loin quand on parle des questions de faire ou non des enfants. Parce que c'est vrai, quand on a vu l'abondance des titres de presse il y a quelques semaines en France, suite à ces chiffres, hein, on voit tout de suite il faut redonner envie aux jeunes de faire des enfants. On pointe l'individualisme des nouvelles générations. Pourquoi il semble toujours y avoir une sorte de pression à faire des enfants, d'injonction? Est-ce qu'il y a là une forme d'angoisse là derrière, peut-être quelque chose d'un peu existentiel, hein?
Alors peut-être que par rapport aux anciennes générations, le fait que les choses changent, ça peut faire peur. Déjà, les normes se modifient au cours du temps, donc c'est quelque chose de plutôt nouveau, donc qui est moins tabou. Donc déjà, ça peut être quelque chose. Alors il y a notamment des angoisses par rapport à la question des retraites. Donc ça, il faudrait poser la question à un économiste qui aura certainement de très très bonnes réponses. Mais en démographie, on parle parfois du seuil de remplacement d'une génération, qui est de 2,1 enfants par femme. Mais donc c'est le seuil, donc c'est le nombre d'enfants qu'il faudrait que toutes les femmes aient pour qu'une génération se régénère, en gros. Et donc, il y a beaucoup de pays...
On est bien en dessous de ce seuil-là aujourd'hui. Hein.
Oui, oui.
1,46, je pense, en Belgique.
Oui, 1,47, tout à fait. La moyenne européenne étant 1,59. Donc, on n'est pas non plus hyper loin de la moyenne en Europe. Et la majorité des pays européens, maintenant, sont en dessous de ce seuil. Et il y a d'autres pays dont la situation est beaucoup plus critique. Si on pense à la Corée du Sud, qui ont le taux de fécondité le plus bas au monde.
On est à combien, là?
On est à 0,89.
Ah oui.
Donc c'est moins d'un enfant par femme. Mais je pense qu'il faut aussi retenir que la situation et leur culture est extrêmement différente de la nôtre. Dans le sens où, par exemple, en Corée du Sud, faire un enfant hors mariage, c'est très très mal vu. Et donc il y a vraiment un pourcentage, je pense que c'est 2 ou 3% de naissances hors mariage. Et donc, les deux contextes étant totalement différents, il faut qu'on se souvienne de ceci. Et cette injonction, surtout aux femmes, hein, de faire des enfants, est-ce que c'est pas aussi limiter un peu la liberté personnelle des femmes de faire des choix dans leur vie? Et le fait de rejeter ça montre aussi une liberté que les femmes peuvent choisir maintenant. Ouais, c'est pas les politiques, j'ai envie de dire, les politiques qui vont dicter nos vies. Mais voilà. Oui.
Mmh. Mais c'est vrai que c'est souvent d'ailleurs récupéré par les partis plutôt conservateurs. Hein, il faut faire des enfants, faut pousser le réarmement démographique, hein, c'était les mots d'Emmanuel Macron. Ça nous ramène à quoi, ça? Est-ce qu'il y a aussi peut-être une peur du mythe du grand remplacement?
Ah, je pense que oui. En tout cas, le fait que les politiques l'utilisent, ça c'est clair et net. Si on pense, moi je me souviens de quelque chose qui m'avait extrêmement choqué, c'est quand Elon Musk avait dit que toutes les femmes sans enfants étaient des égoïstes.
N'en déplaise à Elon Musk, les temps ont changé. Les couples font moins d'enfants. On a aujourd'hui mieux cerné les causes de ce phénomène. Maintenant, que fait-on avec cela? Dans l'immédiat d'abord. Moins d'enfants, ce sont moins de crèches, d'élèves, sans doute des écoles qui devront fermer. Moins d'allocations familiales à payer aussi pour les autorités. Mais la question se pose aussi à moyen et long terme, car tout le fonctionnement de nos pays fonctionne sur le principe qu'il y a plus d'actifs que d'inactifs. Pensez au système des retraites ou à celui de la sécurité sociale. Comment va-t-on réinventer la solidarité? En Italie, le discours d'extrême droite de Giorgia Meloni a dû se renouveler au sujet de l'immigration. Le pays, très touché par la baisse de natalité, a ouvert d'importants quotas de main-d'œuvre immigrée. 450 000 entrées entre 2023 et 2025, 500 000 de plus d'ici 2028. Quelque chose me dit que le sujet fera l'objet d'une prochaine émission, avec cette fois un économiste pour compléter notre réflexion. Merci à notre invitée, Alice Reyes, doctorante en démographie à l'UC Louvain. Merci à nos témoins, Emmanuel et Olivier, pour le partage de leur expérience. À la réalisation de cette émission, Laurent Nélissen, à la préparation, Sarah Pousset, Marie-Van Kutsem. Merci pour votre écoute et à très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesclés@rtbf.be.